Et on joue toujours l'accord aussi local en fonction de la provenance du saucisson.
Ferme les yeux, c'était de la poésie. Aïe.
Mais c'est délicieux.
Il y a un petit goût de date, je trouve.
Exactement.
Là-dedans.
Il fait un peu confit.
Europe 1, 11h, 12h30. J'ai une passion pour les frites.
Ah, bah bienvenue
J'adore
au club.
J'adore les frites. La table des bons vivants, Laurent Mariotte.
Amis de la table, bonjour. Allez-y, installez-vous. Nous sommes ensemble jusqu'à 12h30 pour partager évidemment le goût des bonnes choses et puis comprendre ce que nous mangeons, c'est important. Alors à propos, tiens, nous allons nous intéresser au coût du goût. Quel est le juste prix des produits frais ? Quel est le juste prix pour que les agriculteurs et les consommateurs soient contents ? Dossier avec Philippe Toinard du magazine 180 degrés dans un instant. On va faire aussi le tour du pont Lévesque et puis on va se demander, tiens, si la nourriture a un sexe. Dossier très intéressant aussi, vous entendrez. Pas de fête du travail pour mes bons vivants. Les voilà, un brin de muguet à la boutonnière. Elle regrette une seule chose, qu'il ne se déguste pas en pâtisserie. C'est Charlotte Langrand du Journal du Dimanche.
Bonjour Laurent.
Bonjour Charlotte. Avec une belle coupe de cheveux printanière, le printemps
faut.
Vous scie à ravir, comme on dit. Pour ne pas avoir à travailler aujourd'hui, il a débouchonné ses bouteilles hier. C'est Olivier Pouls de la Revue du Vin de France.
Oui, bonjour les amis. C'est vrai, comme ça, ils seront parfaitement aérés. Oui, je les ai carafés, je vous les servirai tout à l'heure.
Ouais, mais si on fait ça, il faut remettre quand même un petit peu le bouchon, parce qu'une journée entière, ce serait beaucoup.
Oui, mais certains vins ne craignent pas 24 heures de passage en carafe.
Ah, bah oui. Et nous allons partager un plat printanier en direct du bistrot Paul Bert à Paris. Un plat printanier convivial avec la journaliste santé bonne vivante Marina Carrère-Dancos. Et ça y est les amis, on peut le dire, J-18 pour l'ouverture des terrasses le 19 mai.
On coche les dates.
Ouais,
on fait un calendrier de l'avant de la réouverture.
Et le 9 juin, on croise les doigts partout en France, on va pouvoir retourner au restaurant avec un protocole sanitaire bien entendu à respecter, mais on se réjouit, on pense à
ça
tous nos restaurateurs.
Oui, dans Je vous invite. Cuisines.
Ah bah moi aussi, mais non mais blague à part, faut
on
réserver dès maintenant.
Oui.
Hein,
bah
oui, et comment ? Tiens, alors à propos, quel est votre goût de la semaine, chers amis ? On va commencer par vous, Charlotte.
Alors le goût du café dans tous ses états, en tout cas des états que je n'avais jamais vraiment goûté, chez Alain Ducasse, dans sa manufacture de café. Il vous fait un café froid à la pression, comme une bière, avec, oui, Olivier lève les sourcils, avec même de la mousse.
C'est bluffant,
vraiment,
oui.
C'est bon. Ah oui, c'est vraiment bon. C'est bluffant, il faut aimer le café bien sûr. Hein. Et sinon, il fait aussi un café comme un thé à partir d'une infusion de la chair qui entoure la fève. Et ça fait, ça se sert ou chaud ou même glacé avec un glaçon dedans, ça, on dirait un whisky.
Exactement.
C'est franchement très étonnant.
Comme dirait Alain Ducasse, écoutez-moi bien, c'est très bon, il aime beaucoup vraiment. Non mais c'est vrai, on connaît le Ducasse cuisinier, il y a le Ducasse chocolatier, le Ducasse torréfacteur et le Ducasse glacier bientôt. Il nous en avait parlé ici à cette table. Olivier, votre goût de la semaine?
Il date d'hier soir, figurez-vous, j'ai eu envie de changer un peu de la botte de radis qu'on mange simplement comme ça à croque au sel. Je les ai poêlés, figurez-vous, dans un tout petit peu de beurre. Et en fait, le fait de poêler les radis, ça enlève complètement le côté piquant. J'ai déglacé qu'une petite goutte de vinaigre balsamique et râpé un peu de parmesan. Et à l'apéro, c'était franchement délicieux. C'est hyper simple, c'est printanier. Et c'est une autre manière de voir le radis.
Et c'est un cousin du navet, donc on peut le cuisiner comme tel.
Oui,
et
on
même
peut le, cuire,
le mettre dans une blanquette de printemps.
Et vous, Laurent?
Mon goût de la semaine, c'est un goût mou, figurez-vous, parce que j'avais dentiste cette semaine et je ne pouvais pas mâcher en sortant de chez le dentiste. Donc j'ai commandé un truc que j'adore, qui est le bao. Vous connaissez les bao de la cuisine chinoise, ces brioches farcies. Eh bien, c'est un restaurant qui s'appelle Gros Bao à Paris, qui livre et qui va pouvoir ouvrir aussi quand ce sera le jour. Et avec des bao, avec une belle farce de porc, avec sauce barbecue, et puis une garniture d'aubergine à la sauce soja qui est pas mal du tout.
Et là, il ne faut pas mastiquer ça.
Non, ça va, ça passe. Il faut mâcher, mais pas trop quand même. Quoi. Allez, c'est l'heure d'aller au marché. Direction celui de Vanves, dans les Hauts-de-Seine. C'est le 1er mai. Alors, Alice Foss vous a demandé vos recettes express pour vous la couler douce en cuisine, en cette fête du travail.
Ce que je fais volontiers ce jour-là, c'est une tortilla. Moi, je suis d'origine espagnole. C'est très simple. On prend des pommes de terre, des oignons, 6 œufs que je bats et je verse cet appareil sur les pommes de terre. En 15 minutes, j'ai un petit plat délicieux, sans prétention, et je me régale. J'ai acheté aussi quelques radis, des artichauts,
un chou-fleur, des épinards et des fraises, bien sûr.
Bah moi, c'est salade de fraises. Cette recette que je fais régulièrement, elle est hyper simple. J'ajoute juste du jus de citron et un brin de menthe. Ça me plaît beaucoup quand j'ai pas beaucoup de temps. C'est mon petit plaisir de la saison.
J'achète quelques beaux filets de poisson blanc du lieu. Hop, je les mets au four avec quelques rondelles de citron, d'oignon, de l'huile d'olive. Et en parallèle, je fais cuire des petites pommes de terre nouvelles. Et en une demi-heure, tout est prêt. J'adore ça.
Eh ben voilà, bravo, nos auditeurs sont créatifs et ils ne manquent pas d'imagination. Votre petit truc, tiens, pour cuisiner express, Charlotte,
en ce 1er mai. Si je me suis préparé un petit pesto maison qui reste là depuis, on peut le faire à l'avance quelques jours, on fait des pâtes et puis on met un petit pesto basilic, parmesan, huile d'olive, citron, peut-être même un peu poudre d'amande.
Simple et efficace.
Ça fait toujours plaisir.
Simple et efficace.
Moi, j'ouvre une boîte de raviolis.
Ah non, vous n'allez pas revenir avec votre boîte. Je l'ai vu venir, en plus, je lui tends la perche.
Et ensuite, je mets du fromage râpé, je la mets au four et je la gratine.
Oui, ben voilà, pourquoi
c'est
pas.
C'est très rapide. Hein.
Ou avec le
vous inviterez, tiens.
Ouais, ben non, je crois que j'aurai un truc ce jour-là. L'auditrice qu'on a entendue sur le marché de Vanves, là, nous parlait de poissons blancs. On peut les prendre crus. On peut les tailler un peu épais pour faire un joli séviché. Oui. Huile d'olive, citron, du radis, de l'avocat.
Des petits oignons. On peut rajouter même quelques graines, par
des
exemple.
Petits pois, même crus.
Des petits pois frais à la poêle en 2 minutes.
Alors, si vous êtes au marché ou que vous allez au marché, eh bien, profitez-en pour composer aussi votre plateau de fromage. Et à propos, tiens, si vous preniez du Pont-l'Évêque, ce beau fromage made in Normandie, on vous en parle juste après ça. À tout de suite.
11h30 sur Europe 1, Laurent Mariotte vous accueille à la table des bons vivants.
Ah, le camembert au lait cru se taille une belle part hein, sur le plateau de fromage normand. Mais il y en a d'autres, bien entendu. Le Neuchâtel, le Livaro, le Pont-l'Évêque, qui est l'ambassadeur du Pays d'Auge. Et pour être précis, tiens, le Pont-l'Évêque ne vient pas de Pont-l'Évêque, hein, mais des petites fermes autour. Il y a Saint-Philbert-des-Champs, il y a Bourgeauville, il y a Douville en Auge, à une vingtaine de kilomètres de Pont-l'Évêque. Et quand je parle de ce fromage, bien entendu, on est au lait cru, hein, Charlotte.
On est au lait cru dans un fromage à pâte molle et à croûte lavée ou pas.
Dont
la croûte peut aller du jaune au orangé au rosé, parfois même blanche. Et donc, comme vous le disiez, c'est un cousin du Livaro ou du pavé d'Auge.
Et monsieur Histoire, tiens, mon cher Olivier, qu'on retrouve tous les jours dans Historiquement Vôtre avec Stéphane Bern et Mathieu Noël, il n'a pas toujours porté ce nom, le Livaro.
Non, parce qu'au XIIe siècle, on l'appelait l'Angelot et il servait notamment, comme beaucoup de fromages d'ailleurs, à payer la dîme. Et le nom de Pont-l'Évêque va arriver au XVIIe siècle. Le nom de Pont-l'Évêque, vous l'avez dit, c'est une ville. Et pourquoi ? Bien, tout simplement parce que sur le marché de Pont-l'Évêque, on vendait la production de ces fromages.
C'est un concentré de Normandie, hein, ce fromage, fabriqué au lait de vaches de race normande. Il y a évidemment le joli bocage normand qu'on connaît. Alors, on va aller voir de plus près ce Pont-l'Évêque. Pas de Pont-l'Évêque sans la main et l'œil de l'artisan. Lucille Escourou a rencontré Jérôme Spruit, troisième génération d'éleveurs fromagers à Saint-Philbert-des-Champs, dans le Calvados. Alors, avant de retourner les pavés à l'affinage, il nous explique la mise en moule du caillet juste après le caillage. Écoutez.
Donc oui, là, on a une cuve de 408. On va déverser ce caillet en 3 fois sur une table d'égouttage. Donc, je l'accompagne dans son égouttage. Je force pas. Et il y a un stade où je vais m'arrêter. Le stade, c'est tout simplement le toucher et l'œil. De toute façon, dans une fabrication, il n'y en a pas deux pareils. C'est comme les enfants, ils viennent du même moule, mais à deux, pas deux pareils. Donc le caillet, c'est très sucré. Et quand on le macère bien entre la langue et le palais, on retrouve la note de noisette quand elle est blanche et qu'elle remue dans sa coquille, qu'on la prend à l'arbre, qu'elle est toute jeune. Donc nous, on va saler au 3e jour. Le salage, c'est la partie la plus importante du fromage. C'est à la demi-journée près. En frottant le fromage sur toutes les surfaces, on ne mesure pas ce qu'on fait. C'est comme quand vous faites la cuisine, vous savez, et ça marche. Si vous faites trop tôt, le fromage, ça va ruisseler, couler, et vous allez retirer beaucoup de saveur de votre produit. J'ai la connaissance du goût du Pont-l'Évêque de mes parents et de mes grands-parents maternels. Parce que mon grand-père m'a dit, j'avais 4 ans, et il m'a dit, maintenant je peux partir, j'ai mon remplaçant. C'est vrai que je m'en rappelle, ça m'a imprégné et j'ai toujours su ce que je voulais faire, c'était la ferme et le fromage.
Et ben voilà, 3e génération, un bel exemple de transmission. Merci Jérôme Spruit pour cette belle passion. Alors tiens, verdict Olivier.
Dans le goût. Bah oui. Déjà visuellement, il faut noter qu'il est assez jaune,
oui.
Ce qui est signe à mon avis d'une qualité de lait.
Et la croûte blanche.
Ouais, d'une belle qualité de lait.
Pas d'ensilage, hein. Voilà, c'est vraiment de la prairie, du bocage normand. Et effectivement, là, on remet
et
les
on le retrouve en bouche, en
ce moment et on retrouve une belle couleur.
On sent les fleurs.
Et on retrouve une intensité en bouche. En même temps, c'est intense, mais c'est doux. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun côté agressif quand on le mange.
Exactement.
C'est puissant, évidemment, et c'est normal. Hein. Un beau fromage, ça doit quand même vous en laisser un peu quelques minutes dans la bouche. mais sans côté agressif.
C'est très équilibré. Et le salage, c'est intéressant ce qu'il disait sur le salage, effectivement, parce que s'il est trop frotté ou trop mis au sel, effectivement, là, on ne peut pas rattraper le goût. Et on est bien loin des fromages pasteurisés, encore une fois, on vous le dit.
Ah oui.
On sait que le fromage coûte cher, bien entendu, mais quand vous êtes sur un marché et que vous voyez un joli fromage au lait cru avec une belle histoire derrière, taillez-vous une petite part et vous verrez, c'est encore une fois une façon de découvrir de belles diversités.
Est-ce
de
que
goût.
Vous mangez la croûte?
Ah, sur ça, oui,
bien sûr.
Ouais.
Ah oui.
Mais tout le monde ne la mange pas.
Non, non, non,
ouais.
On
peut. Il y a un grand débat.
Certains.
Hein.
Alors, moi, je vais vous dire un truc. Moi, je l'enlève que d'un côté. Parce que je trouve que si j'enlève des deux côtés, ça manque peut-être d'un petit peu de goût. Si je laisse
pas
tout,
mal.
Je trouve que la croûte est parfois un peu trop présente en bouche. J'enlève que d'un côté.
Et
moi.
Qu'est-ce qu'on boit, tiens, avec ça, alors?
Bah, ce genre de fromage, moi, alors, évidemment, soit des vins blancs, mais moi, j'aime le cidre avec ces fromages parce qu'il y a une relation locale très forte. Et un beau cidre fermier, là aussi, printanier, c'est quelque chose qui marche admirablement bien avec tous ces fromages, comme le camembert, par exemple.
Alors, on va faire un petit appel, tiens, à nos auditeurs. Hein, il y a plus que 5 éleveurs fabricants fermiers.
Qu'on l'évêque ou les crus, oui.
Exactement. Mmh. Et Jérôme Sprit a 65 ans. Il lance un appel, hein, on vient de l'entendre. Eh bien, il cherche quelqu'un à former pour reprendre la fabrication du Pont l'Évêque. Alors, bien entendu, vous mettez en contact avec nous. Il suffit de publier un post sur la page Facebook des Bons Vivants, sur la page Europe 1, et évidemment, on s'occupera de vous mettre
ça vous intéresse
en
pas
contact. Ouais, c'est un métier passionnant, le fromage. Mais franchement, moi, j'adorerais, mais pas tout de suite, mais un jour.
On fera notre fromage.
On fera notre fromage.
Des Bons Vivants.
Voilà, le fromage des Bons Vivants. Au lait de vache?
Oui, pourquoi pas. Oui. Ouais, moi, j'aime bien le lait de vache. Ouais.
Brebis.
Oui, j'aime bien brebis aussi.
Brebis.
Chèvre. Moi, j'aime tous les fromages. Hein,
d'accord. Bon, on va réfléchir. On vous tiendra en courant. Bon, on va laisser faire les professionnels quand même pour l'instant. Alors, tiens. Question, est-ce que les femmes mangent plus de yaourt et les hommes plus de viande? Pourquoi se tourne-t-on souvent vers l'homme quand vient le choix du vin à table? Comme si la nourriture avait un sexe. Tiens, on va casser la croûte des idées reçues juste après ça. A tout de suite.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Quand tu leur demandes qu'est-ce que ça veut manger, les garçons, ça veut toujours manger la même sauce. De la viande et des patates. Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Un filet de bœuf. Oh. Et après, un pavé de bœuf. Ah. Et ce soir, une côte de bœuf. Ah. Et comme légume, une patate.
Ah, bah voilà, ça c'est un best-of, ça, c'est magnifique. C'est Florence Foresti.
Est-ce que c'est complètement faux?
Mais je crois pas, justement, on va se poser la question. Alors, il y a des clichés côté nourriture et genre, évidemment. Les hommes veulent juste se remplir l'estomac, tandis que les femmes privilégient la diététique. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Manger végétarien ne serait pas viril? Eh bien, voilà le genre d'idées reçues qu'on entend encore aujourd'hui à des coins de table. La journaliste Nora Boisouni a lancé un pavé dans l'assiette, hein, la semaine dernière, avec son livre Stexisme. Stexisme comme un beau steak que les garçons aiment bien. Alors pour en finir avec les clichés d'une cuisine féminine ou masculine, eh bien on va l'interroger justement. Elle est avec nous en ligne. Bonjour Nora Boisouni.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors notre époque aime mettre les gens dans des cases, hein, elle aime bien les ranger dans des catégories. Est-ce que la nourriture a un sexe déjà?
Alors, la nourriture n'a pas de sexe, hein. C'est nous qui collons des petites étiquettes bien binaires dessus, comme on colle les étiquettes à un petit peu tout, hein, aux vêtements, aux productions culturelles. Donc, on a décidé que, bah, à cause de stéréotypes, de clichés ou de pratiques alimentaires, il y aurait des aliments qui seraient codés comme féminins ou codés comme masculins.
Alors, la pub joue un rôle, on va en parler. Votre livre est très bien fait parce que c'est pas simplement un avis ou une humeur, c'est très renseigné, c'est très sourcé, comme on dit, avec beaucoup d'enquêtes, beaucoup de chiffres. Tiens, il y a une idée reçue qui revient régulièrement. Les hommes mangent plus de viande rouge et les femmes plus de yaourt. Olivier et Charlotte, tiens, c'est vrai ou c'est faux selon vous?
Si je dois témoigner à titre personnel, je peux dire qu'à la maison, non, c'est pas vraiment le cas. Je peux pas laisser d'ailleurs, par exemple, une plus petite assiette de
viande rouge à
ma compagne, parce que sinon ça se finit très mal.
Oui, alors peut-être qu'on n'est pas représentatif, mais effectivement, je connais quelques femmes qui font mentir ces statistiques, mais on n'est peut-être pas dans la représentation globale de la population française.
Nora, alors, la réponse, est-ce que les hommes mangent plus de viande rouge et les femmes plus de yaourt? C'est vrai ou c'est faux?
Oui. Eh, c'est vrai. Bah
c'est
oui,
fou,
c'est vrai.
Hein.
Alors justement, moi je suis partie de ce constat-là. En fait, je me suis posé la question, est-ce que les clichés qu'on a tous et toutes dans la tête concernant nos pratiques alimentaires et nos goûts qu'on estime peut-être à tort innés, Enfin sûrement, parce qu'on sait qu'il n'y a pas de goût inné. Est-ce que ces constats sont vraiment là? Donc on regarde, il suffit de regarder les études individuelles sur les consommations des Français et des Françaises pour constater que oui, les hommes mangent deux fois plus de viande rouge que les femmes, et que les femmes mangent plus de yaourt, elles mangent plus de compote, elles mangent plus de soupe, et les hommes vont manger plus de patates, comme le dit Florence Foresti, et plus de pâtes, de riz, de fromage. Donc effectivement, quand on regarde à l'échelle nationale, ces clichés sont bien réels. Ces pratiques correspondent aux stéréotypes qu'on peut avoir en tête, mais ça ne reflète pas du tout un goût qui serait inné. C'est ce que j'essaye de comprendre dans mon bouquin. C'est on constate que les clichés sont bien réels, hein, mais qu'est-ce qui fait que ces constats sont là? Qu'est-ce qui fait que oui, les hommes mangent plus de viande que les femmes?
Alors la pub joue un rôle aussi dans la propagation des clichés, hein, quand même. Regardez les pubs pour la viande, par exemple, ou pour les burgers ou les fast-food. C'est des grosses voix rocailleuses comme ça qui se veulent bien viriles. On est d'accord. Vous en parlez dans votre livre de ça, hein,
oui,
Nora Boisouni.
Pour ne pas citer la marque de cette viande qu'on connaît tous et toutes avec son voilà comme ça. Alors récemment, il y a eu des spots avec des femmes, mais alors c'est des femmes qui sont enceintes ou bien qui ont des enfants. Donc on a l'impression que les femmes pourraient manger des grosses entrecôtes seulement si elles doivent nourrir un autre être vivant. Et puis oui, les pubs pour les petits chocolats, par exemple, ou les yaourts, eh bien il y a des voix suaves de femmes qui vous disent « succombez à la tentation, fondez de plaisir ». Donc on voit bien que rien qu'avec la sémantique, avec les mots utilisés, les slogans, et puis l'intonation, la voix qui soit masculine ou féminine, on nous pousse en fait, dans notre petit inconscient, à être manipulés, et on construit et on perpétue ces clichés genrés concernant l'alimentation.
Et comment? C'est vrai que vous parlez, tiens, page 47, j'invite les lecteurs à aller voir, vous parlez bien de l'érotisation du yaourt. Alors on va entendre maintenant, Nora, notre ami Jean-Luc Petit-Renaud. On connaît son goût, hein, pour une cuisine authentique, rassembleuse et un peu vintage. Mais pour lui, eh bien, comme pour nous, côté nourriture, pas de différence selon les sexes. Écoutez, tiens, son truc pour casser l'assiette des idées reçues. Et on en reparle juste après.
Allez, ça y est, c'est reparti pour les vieux marronniers. Bon, on connaissait déjà les femmes en cuisine et les hommes au football, ça on le savait déjà. Mais j'étais surpris d'apprendre que les filles mangeaient du poisson et les hommes mangeaient de la viande. Ben, tiens, pourquoi pas mélanger les choses? Un beau poisson, c'est beau. Une belle viande, c'est magnifique aussi. Ça m'amuse toujours, ce genre d'affirmation. Puis, je vois pas pour quelle raison le petit garçon aurait besoin de double portion de viande sous prétexte qu'il a fait un match de foot. La petite fille aussi, elle s'est dépensée à la corde à sauter ou au match de rugby aussi. Pour quelle raison qu'elle aurait droit qu'à un filet de merlan? Enfin, il y a les bêtises comme ça qui circulent et ça m'agace toujours. Vous me connaissez, moi j'aime tout et j'ai une spécialité notamment qui est le magnifique cornet de jambon à la macédoine de légumes avec les légumes pré-cuits qui sont mélangés, tout ça avec une petite mayonnaise, mais attention, une mayonnaise faite au yaourt, faite au jus de citron, et on met tout ça à l'intérieur d'un cornet de jambon, comme ça, ça évite toute engueulade, décontractons-nous, surtout en ce moment. D'ailleurs, là, en sortant, si je croise une petite part de tripe, avec des petites pommes de terre à l'eau, et après ma bonne tripe, pourquoi pas un petit yaourt, là, juste comme ça pour nettoyer. Hein,
ben oui, l'érotisation du yaourt, Jean-Luc, Petit-Renaud. La Macédoine, tiens, alors Nora, est-ce que la Macédoine a un sexe, justement, dans son cornet de jambon?
Alors, justement, là, on mélange les genres, c'est intéressant de parler de mayonnaise qui serait du coup allégé, puisque ce serait du yaourt et du citron et non plus de l'huile avec du jaune d'œuf. La Macédoine, en fait, effectivement, si elle est composée de légumes, donc qui sont codés, on dit, comme féminins, qui sont moins caloriques que la viande, par exemple, ou des patates. Et on a une mayonnaise. La mayonnaise, c'est quand même hyper calorique. Alors, on dit aux femmes qu'il faut faire attention à leur ligne, plus qu'aux hommes, hein, même si tout le monde est touché par ce qu'on appelle la grossophobie, donc les discriminations vis-à-vis des personnes grosses. Mais effectivement, si on prend une mayonnaise allégée, bah, dans notre tête, on va se dire « Ah bah, c'est plus pour une femme, ça », alors qu'une mayonnaise traditionnelle, ce sera plus codé comme
homme. Oui, mais Olivier Pouls, il allège la mayonnaise. Hein.
Oui, on peut l'alléger, mais moi je voulais aussi parler d'un autre secteur de la gastronomie qui est le vin, et là aussi, il y a quand même une fracture très forte. Vous avez quand même constaté que le sommelier, pratiquement systématiquement, il donne la carte des vins à monsieur et jamais à madame, alors que madame parfois connaît et goûte mieux le vin que lui d'ailleurs. Et quand il s'agit de faire goûter le vin, moi je connais des sommeliers aujourd'hui qui servent aux deux. Oui, et qui demande à ce que les deux valident.
Et à l'inverse, certains clients qui, quand c'est une sommelière en salle, demandent où est le sommelier.
Ça arrive aussi.
S'il vous plaît, ça c'est pas génial non plus.
Bon, en tout cas, c'est passionnant. Merci Nora Boisouni d'avoir été avec nous pour un peu éclairer quand même nos consciences sur ce steaxisme, comme vous dites. Hein.
Merci et bon appétit. Moi, j'ai très faim en tout cas. Mais merci.
Nous aussi, on
finit. Vous allez manger de la viande?
Oui, qu'est-ce que vous mangez?
Non, je ne mange pas de viande, mais je vais sûrement manger des petites soles.
Ah, joli. En finir avec le mythe de la VG et du viandard. Voilà, steaxisme aux éditions Nourriture Fût. Et c'était Nora Boisouni. Bon samedi, Nora Boisouni. Dans un instant, on parle du coup du goût. Mais avant, on écoute Kimber Rose, Back on My Feet. Vous pouvez monter le son parce que c'est super péchu, ça.
But I ain't sorry, it's plain to see. I just let go, this time for sure. And in the blink of an eye, and yeah, I made my mistakes. Time to escape, at least I'ma give it a try.
Qu'est-ce que c'était bien ça, Kimber Rose, Back on my feet sur Europe 1. Alors, combien ça coûte de bien manger? Qu'est-ce qu'on paye dans notre assiette? Le produit, le travail du producteur, le transport, le vendeur, le marketing? Quel est le coût du goût? Eh bien, nos amis de la revue 180 degrés ont enquêté et on en parle aujourd'hui avec le rédacteur en chef Philippe Toinard. Bonjour Philippe.
Bonjour les bons vivants.
Merci d'être là. On vous connaît, hein, vous avez votre ronde serviette à cette table. On aime beaucoup le magazine 180 degrés, qui est pas un magazine d'ailleurs, qui est
un MOOC.
Ouais. Une revue. Hein.
C'est ça.
MOOC, c'est entre c'est magazine et book.
Et donc on n'est diffusé qu'en librairie du coup.
Alors, le pouvoir d'achat est au centre de nos préoccupations hein, quand on fait nos courses. La crise sanitaire, on en avait parlé avec vous déjà il y a un an, a remis au centre de l'assiette les circuits courts. Mais il faut se rendre compte quand même d'une chose, c'est que les gens continuent à faire beaucoup leurs courses en supermarché. La grande distribution reste le lieu principal de consommation des Français tout de même.
Hein. Oui, on y a cru un moment avec beaucoup de nos confrères qui ont annoncé le monde d'après. Et ouais. Je ne suis pas certain que le monde d'après soit à la hauteur de ce qu'on avait imaginé. Et qu'on a fait confiance aux gens pour aller effectivement soutenir l'agriculture française, notamment avec des circuits courts. Et puis ben, on se rend compte que très vite on reprend ses habitudes et qu'on délaisse un peu notre agriculteur qui est à côté de chez nous.
Et qui va en direct à la ferme.
Qui va en direct et avec chez qui on peut faire des économies parce que bah, c'est beaucoup moins cher quand on l'achète chez lui, ça évite les intermédiaires.
Et avoir des produits d'une première fraîcheur aussi, c'est ça qui est important, c'est que ça n'a pas fait des jours, voire des semaines de chambre froide chez notre paysan à côté de chez nous.
Hein. Ah bah non, c'est du direct et puis surtout il y a tous les produits. Alors effectivement, sur le plan écologique, on prend un peu sa voiture. On n'a pas trop le choix quand on habite dans une grande ville, il faut prendre sa voiture pour aller voir les agriculteurs et sur le plan écologique, c'est pas top, mais on a tout, on a du lait, des légumes, du miel, enfin tous les agriculteurs ont compris qu'eux, il fallait qu'ils se mettent en avant et qu'ils vendent en direct, quand ils peuvent légalement le faire.
Alors combien coûte ce que nous mangeons? Le coût du goût, c'est votre dossier dans ce 180 degrés. Alors le coût d'un produit va de la fourche à la fourchette, hein, comme on dit ici. C'est un chemin plus ou moins long, plus ou moins cher. Expliquez-nous tiens, les grandes étapes et les intermédiaires qu'on retrouve sur ce parcours entre la fourche et la fourchette.
Alors tout dépend si le système est fait avec une coopérative par exemple.
Ouais.
Alors, un agriculteur qui va produire pour une coopérative, parce que jusque-là c'était son seul moyen de vendre, va se faire assommer parce que c'est structurel et c'est idiot. C'est-à-dire que l'agriculteur n'impose pas son prix. C'est-à-dire que vous, quand vous allez chez le cordonnier qui vous dit c'est 18 euros pour réparer vos bottines, vous payez 18 euros, vous ne dites pas non, c'est 12.
Mais c'est ça.
Alors que l'agriculteur, il produit quelque chose, il va l'apporter à une coopérative et on lui dit c'est 32 centimes. Mais d'où c'est un système qui ne fonctionne plus. Si son coût à lui, c'est 48 centimes, il doit au minimum obtenir 48 centimes. Et c'est structurel et ça ne fonctionne pas. Enfin, par exemple, si on se rapproche de l'Yves Pouls, le vin, quand on va chez le vigneron nous dit c'est 12 euros la bouteille, on paye 12 euros. On ne va pas négocier. Alors évidemment, si on passe sur 100 bouteilles, on va commencer
bien
une
sûr,
petite négociation.
Oui,
à part qu'en grande distribution, on trouve aujourd'hui du Bordeaux. Voilà, on trouve du Bordeaux à 2 euros la bouteille, qui est fait évidemment au détriment de celui qui le
bien
produit,
sûr.
Parce qu'il ne peut pas gagner sa vie en faisant ça.
C'est la différence entre le vigneron et le viticulteur. Il y a celui qui travaille avec une coopérative et celui qui travaille en direct.
C'est la question des fameuses intermédiaires.
Il y en a trop. Il y a beaucoup trop d'intermédiaires entre l'agriculteur et la sortie caisse.
Alors la loi Egalim essaye de changer ça. On avait Serge Papin il y a quelque temps avec nous ici, hein, qui était rapporteur et qui proposait des solutions pour cette loi Egalim. Justement qu'on prenne en compte le coût des matières premières du paysan, de l'agriculteur, avant de fixer son prix tout de même. Ça paraît la moindre des choses, ça.
Alors, je vais vous donner un exemple que j'ai croisé il n'y a pas très longtemps. Je suis allé voir un producteur de rhubarbe dans la Somme. Jusque-là, il était en système coopératif. Il a 2 hectares au milieu des grandes cultures de betteraves et autres grandes cultures telles que le blé. Lui, il ne fait que de la betterave. La coopérative lui dit, c'est 1 euro du kilo.
Moins la rhubarbe ou de la betterave?
La rhubarbe.
Oui, il fait
c'est
que
1
de
euro
la rhubarbe.
Du kilo, moins le coût du cajou qui est à sa charge. Donc, il ne gagne pas grand-chose. Son fils rentre dans l'exploitation, sauf qu'ils ne peuvent pas verser 2 salaires. Jusque-là, il en avait un tout petit. Son fils lui dit, on va changer notre fusil d'épaule et on va passer en direct. On va vendre notre rhubarbe en direct. Donc, il la vend à des pâtissiers, à des chefs de cuisine, et à vous et moi, entre 3,50 et 4,90 le kilo. Et depuis, ils se versent 2 salaires et ils sont très heureux.
Et il peut travailler, et il peut consommer, et il peut embaucher, on en revient toujours à ça. Ouais. Dans 180 degrés, vous donnez aussi l'exemple d'un producteur de kiwi. Le même kiwi hein, ne coûte pas le même prix selon l'endroit où on l'achète. Alors ça, c'est dingue. On lui achète quoi 1,30€ le kilo.
Alors
on va
voilà,
dire
ça, c'est quelqu'un qui vend effectivement un système en direct à une grande surface. Donc on négocie avec lui, donc il est à 1,30€ le kilo.
Ouais.
Et il le retrouve à 6€. Donc quelques jours plus tard dans les rayons, donc il en a fait un tweet parce que c'était juste absolument scandaleux.
Délirant.
Et un de ses confrères, qui lui vend en direct, vend 4,50€ le kilo, donc déjà il gagne 3€ de plus par kilo, et il l'a retrouvé à 10€ en grande surface. Alors la multiplication n'est pas la même, ça ne fait que x2 quand l'autre fait x4,5. Mais au moins à 4,50€, l'agriculteur, lui, s'en est sorti. Alors qu'à 1,30€, il ne gagne pas d'argent, ce pauvre monsieur.
Alors c'est quoi la solution?
bah, c'est de vendre en direct ou de supprimer les intermédiaires. Oui. Ou alors, tout simplement, de dire l'agriculteur, c'est du temps, c'est de la mécanique, c'est de l'humain, et ça vaut tel prix, et qu'on arrête ce système structurel qui est de dire à l'agriculteur, je te l'achète tant. Non, je te le vends tant.
Oui, mais la grande distribution doit pour ça prendre sa part, parce qu'aujourd'hui, elle ne vend que des prix. Toutes les pubs qu'on entend pour la grande distribution, c'est le kilo de carottes à 1 euro. Si on n'est pas capable à un moment de dire, ça ne peut pas valoir 1 euro, on n'en sort pas.
Non, c'est compliqué, mais on se rend compte que les agriculteurs, petit à petit, enfin, si je reprends l'exemple de la rhubarbe, quand il sort du système, il se rend compte la bouffée d'oxygène qu'il a. Alors évidemment, tous les agriculteurs ne peuvent pas faire demain. Mais c'est un premier pas pour montrer que entre le vendeur de kiwi qui vend en direct à la grande surface et qui se fait étriller sur les marges, et celui qui vend en direct à vous et moi, il y en a un qui gagne plus d'argent. Donc il y a un marché qui existe.
Et vous parlez d'un système intéressant. En Allemagne, il y a un supermarché, je crois, qui affiche deux prix, c'est-à-dire avant, enfin le prix réel, et le prix après avec le coût sur l'environnement, tout ce qui est et la santé.
Ah, ouais.
Est-ce que ça peut marcher?
Oui.
Alors, chez nous, le prix sera affiché. Je ne sais pas si ça va nous faire changer notre façon d'acheter. Mais je trouve ça assez étonnant de la part des Allemands d'avoir fait ça, parce qu'effectivement, vous avez un prix qui est annoncé à 4 euros, c'est le prix de vente classique. Et si on prend alors, les intermédiaires, plus le coût environnemental, plus le coût sociétal, plus le coût de la santé, il est affiché à 12. Et voilà ce que coûte réellement le produit une fois que vous l'avez ingéré.
Alors parfois, au niveau local aussi, on sait que c'est important de bien manger et de consommer local. Mais parfois, certains consommateurs ne comprennent pas que des produits locaux vont être plus chers quand ils sont achetés à côté de chez eux, plutôt que quand on va les trouver loin en grande surface, par exemple. Ça arrive, ça.
Alors oui, et ça fait partie des produits qui circulent. C'est-à-dire que très souvent, on vous dit, même si on prend le cas du poisson, que le poisson est moins cher acheté à Paris que dans le port de Lorient.
C'est ça.
Parce qu'en fait, entre-temps, il est parti de Lorient, il est allé à Paris, il a été vendu, et ce qui reste, à Rungis, et ce qui reste revient à Lorient. Donc vous multipliez les coûts de transport par deux, et c'est celui qui habite Lorient qui se prend les coûts de transport dans son porte-monnaie.
C'est passionnant, le vrai coût du goût. Eh bien, ça continue, on en parle avec Philippe Toinard de la revue 180 degrés. Et dans un instant, tiens, on passe en cuisine et on sort l'addition de nos recettes. A tout de suite.
La table des bons vivants, Laurent Mariotte.
Nous revoilà avec Philippe Toinard, rédacteur en chef de la revue 180 degrés, dossier passionnant autour du coût du goût, hein, c'est à la une de votre revue. Alors il y a le prix du champ à l'assiette, on vient d'en parler, et il y a aussi le prix de notre cuisine du quotidien. Alors déjà, est-ce que vous êtes d'accord, Philippe Toinard, avec le fait que cuisiner à la maison, ça revient moins cher que d'acheter des plats préparés ? Est-ce que c'est vrai ou faux, ça, déjà ?
Alors oui, et je l'ai encore vérifié hier. Je suis allé vérifier dans une grande surface le prix. C'est toujours mon étalon, ça. C'est le prix de la barquette de carottes râpées.
Ah oui.
Alors, quand vous voyez le prix affiché, vous dites, c'est pas très cher. Un euro, hier, c'était 1,99€ dans une grande surface. Les 200 grammes, ça me fait mon déjeuner avec deux tranches de jambon.
Par kilo
Voilà. Et bien, vous remontez au kilo, ça fait 9,95€. Dedans, il y a juste du citron, 2-3 fines herbes et des carottes.
Et des additifs
Et des additifs, évidemment. Et là, vous êtes à 9,95€. Alors, celui qui me trouve un kilo de carottes brutes chez le primeur à 9,95€, c'est la Rolls-Royce de la carotte. Ouais. La carotte ne coûte pas ce prix-là. Mais donc, faire une barquette de carottes à la maison, un, ça ne prend pas beaucoup de temps, et deux, là, on fait des économies, effectivement.
Et il faut travailler soi-même, le plaisir d'éplucher une carotte, de la saisonner. Et puis alors, attendez.
C'est meilleur en plus.
C'est ce que j'ai
en termes de goût.
Non, mais c'est ça.
Photo,
le prix, exactement, le prix, c'est une chose, mais le coût. Cette salade de carottes, je ne donnerai pas le nom de ce traiteur intraitable qui fait des carottes râpées, mais goûtez-moi, ça n'a aucun goût, c'est un goût de plastique. Enfin, c'est pas possible.
Et en plus, c'est vendu dans du plastique, ce qui n'est pas non plus écologique.
En plus, alors il y a deux recettes, enfin, il y en a plus que ça, mais il y a beaucoup de recettes dans 180 degrés, mais il y en a deux où justement vous vous amusez avec l'addition et à passer à la moulinette comme ça le contenu de nos assiettes. Il y a le taboulé maison aussi. Hein.
Alors, taboulé maison. Alors, nous, on a essayé de comparer ensuite avec ce qui se passe au niveau industriel. Comme Delphine, qui fait les recettes dans 180 degrés, était partie sur du bio, on n'a pas réussi à définitivement comparer. Mais le taboulé bio revenu à la part était plus cher, de 15 centimes.
C'est ça.
Par rapport à un taboulé industriel. Et surtout, ce qu'il fallait compter, si je reprends l'autre recette qui est des lasagnes, elle a fait tout avec des produits bio. On est un petit peu plus cher au kilo, évidemment, sauf qu'on était en bio et c'est pas comparable parce qu'aucun industriel ne fait des lasagnes.
Et
surtout, il y a plus de viande, alors que la barquette que je suis allé vérifier hier, le premier ingrédient, c'est sauce bolognaise, 51%. Deuxième, viande. Alors que nous, dans notre recette, le premier ingrédient, c'est la viande, et la deuxième, c'est la sauce.
Et le goût, encore une fois.
Et le goût, encore une fois. Et pas non plus des recettes très compliquées à faire à la maison.
qu'est-ce qu'on boit de pas cher avec des lasagnes, tiens, Olivier Pouls?
Ben, on peut boire plein de choses intéressantes, mais j'ai la même analyse finalement que Philippe sur le vin. Attention, c'est-à-dire que quand on voit des bouteilles de vin trop peu chères, et il y a eu un petit scandale il n'y a pas très longtemps, notamment sur des vins de Bordeaux, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de producteurs sont pris à la gorge et ont vendu à la grande distribution pour avoir un peu de trésorerie, on se retrouve avec des bouteilles qui sont à des prix qui ne payent pas du tout le vigneron, et à moins de 3,50€, 4€, on ne peut pas rémunérer convenablement un vigneron en France. Donc c'est le prix qu'il faut mettre dans une bouteille de vin. Et croyez-moi, à 5-6€ la bouteille, pour vos lasagnes, je vais vous trouver un vin fort sympathique du Languedoc ou de Bordeaux d'ailleurs. Pourquoi pas, hein, vous avez des Bordeaux ou Bordeaux supérieurs à 5-6€ qui sont délicieux, mais qui là rémunèrent convenablement le vigneron.
Combien mettent les Français en moyenne par semaine pour faire leurs courses par personne? Vous avez enquêté, mais un indice sur ça ou pas, Philippe Ponard?
Non, j'ai pas ce tarif-là. J'ai juste remarqué que le prix moyen augmentait. J'ai lu ça récemment dans un quotidien national, qu'on mettait un peu plus d'argent dans nos dépenses d'alimentaire. Mais pour une qualité qui n'était pas forcément plus intéressante.
On a fait l'enquête, nous, on a fait le sondage sur le groupe Facebook des bons vivants, hein, Charlotte.
Oui, il y a la moitié des auditeurs interrogés qui dépensent plus de 50€ pour leurs courses chaque semaine. Ça fait plus de 7€ par jour pour se nourrir. Et l'autre moitié dépense moins de 50€ chaque semaine. Ça fait environ 5€ par jour.
Est-ce qu'il n'y a pas un petit effet minimum, fermeture des restaurants?
C'est le minimum, 5€. Alors peut-être, mais on en parlait avec Frédéric Dan il n'y a pas longtemps, c'est le minimum pour manger dignement par jour, hein, 5€ quand même. C'est vrai que vous le disiez, parfois avec quelques centimes de plus par portion, on a quand même quelque chose qui n'est pas comparable au niveau du goût. Quoi.
Bah, si on est à 5€, nous notre taboulé était à 1,38€ par personne, avec effectivement une viande blanche ou le poulet de la veille, on taille les filets qui restent de la cuisson, ça vous fait un repas. Et vous êtes à moins de 5€ par personne.
On est obligé d'avoir reçu des bases, selon vous, pour bien cuisiner et pour cuisiner tout court au quotidien?
Non, pas forcément. Enfin, c'est pas compliqué de cuisiner. Ce qui est compliqué, c'est le mot cuisiner, en fait. Parce que pour beaucoup de personnes, cuisiner, c'est tout de suite faire des recettes un peu compliquées. Alors que fouetter 3 œufs et mettre de la ciboulette dedans, c'est cuisiner.
Bien sûr.
C'est faire une omelette à la maison. C'est ça, cuisiner. On n'a pas besoin d'avoir des diplômes ou d'avoir fait des stages chez des grands chefs pour savoir cuisiner. Il y a une cuisine du quotidien qui n'est pas compliquée à mettre en place. Après, il y a la nécessité du temps. Mais pour le reste, quand on se lance et qu'on veut faire un très beau plat, oui, c'est compliqué, mais on y prend du temps, on lit. Et puis, il y a toutes les applis, tous vos livres, tous les sites internet. Enfin, il y a de quoi faire, quoi.
On peut trouver, effectivement, aujourd'hui, entre internet, les livres et les applis.
Il y a plein d'émissions, de livres, il y a vraiment de quoi faire. Hein. Mais vraiment, je vous conseille ce dossier parce que ça revient aussi à se poser soi-même, en tant que consommateur, la question de bien manger, qu'est-ce que c'est pour soi. Et ça inclut que ça soit... Ou est-ce que ça peut être raisonnable, ou se régaler, ou faire attention à la planète, ou faire attention à sa santé. Il y a énormément de facteurs qui interviennent, donc après ça apprend à être plus responsable quand on va cuisiner ou faire ses courses. Vraiment, c'est passionnant.
Dossier passionnant, le coût du goût dans le magazine 180 degrés. C'était Philippe Toinard qui était avec nous. Qu'est-ce que vous allez vous faire à manger ce samedi midi? C'est la fête du travail, donc on essaye de faire économie de gestes aujourd'hui, on a dit.
Il me reste de la barbue que j'ai fait en croûte de sel hier soir.
Ah, joli.
Donc je vais dépecer le reste et je pense que je vais mélanger ça avec une petite salade et de la ciboulette du jardin parce que j'ai de la chance d'avoir un jardin.
Ah, c'est bien ça.
On vient à quelle heure?
Ah oui. Et qu'est-ce qu'on boit avec la barbue?
J'apporterai un petit flacon, un petit verre de blanc avec ça, bien sûr.
Ben voilà.
Un blanc frais, allez, je sais pas, de Bourgogne si ça vous plaît par exemple. Un Mâcon, tiens, allez hop.
Ah ben on prend. Merci Philippe Toinard.
Merci à vous.
Et on vous retrouve donc dans les librairies, hein, et
exactement,
pas en kiosque. 180 degrés avec ce beau dossier sur le coût du goût. Bientôt l'heure d'accueillir notre invité. Elle aime manger, elle aime prendre soin de notre santé. C'est le docteur Marina Carrère d'Encausse. Mais juste avant, tiens, on écoute le docteur Claude Nougaro sur Europe 1.
Être amoureux ou malade, ça finit toujours par un lit. Je n'ai plus quitté la chambre dès l'instant où elle est entrée dans ma vie. Dites-moi, docteur. Docteur, pourquoi ai-je la fièvre nuit et jour? Docteur, guérissez-moi, j'ai mal du côté de mon amour. J'ai eu la rougeole et les oreillons, mais je me portais comme un charme quand j'ai cédé au charme de ce démon. Et depuis, docteur, docteur, toujours je grelotte, j'ai le front brûlant. Docteur, contre l'amour, existe-t-il un médicament? En pilule, en piqûre, et avec ou sans douleur. Faites vite l'ordonnance qui me guérira de mon cœur. Oui, j'ai toujours cette fièvre, que je sois seul ou qu'on soit deux. Près d'elle, un grand feu me brûle, et quand je suis loin d'elle, je meurs à petit feu. Écoutez, docteur, mon cœur ne bat plus qu'à demi. Docteur, appelez-la, ou je ne passerai pas la nuit. C'est pas de l'amour, c'est de la rage, hélas, me voilà bien mordu. Et devant cette morsure, pasteur lui-même se serait avoué vaincu. C'est pourquoi, docteur, allez-vous-en, vous ne pourrez rien, j'en ai peur. Elle seule est en même temps la maladie et le docteur. La maladie et le docteur. Ma maladie et mon docteur. Ma maladie et mon docteur.
Belle reprise du tube Fever, c'était Claude Nougaro avec son docteur. Eh bien ça y est, c'est l'heure d'accueillir notre invitée, curieuse et pédagogue, joyeuse et sérieuse. Elle présente depuis plus de 20 ans le magazine de la santé sur France 5. Quand elle ne décrypte pas la médecine, elle écrit des romans. Bonne vivante, c'est une adepte des grandes tablées familiales. C'est Marina Carrère-Doncos, notre invitée. Bonjour Marina.
Bonjour, merci de m'inviter.
Bah, on est ravis de vous accueillir. On sait que vous aimez bien manger et puis que vous associez justement notre alimentation comme Hippocrate à notre santé.
Bien sûr, toujours.
C'est votre meilleure médecine.
Ah ben ça, de toute façon, quand on mange avec plaisir, c'est déjà une bonne médecine.
Voilà, ouais. Quand on cite Hippocrate, on se plante pas en général.
Bravo.
Vous venez nous voir avec un beau roman, enfin un beau roman bien écrit, mais avec quand même un sujet assez costaud. Ce sont les enfants du secret, on en parlera tout à l'heure, aux éditions Héloïse d'Ormesson. Et puis vous venez nous voir aussi parce que mardi prochain, il y a un très beau documentaire et très intéressant sur France 5 qui s'appelle « Céréales, qui nous roule dans la farine ?» point d'interrogation. On en parlera également parce que les farines blanches trop raffinées, les pâtes cuites, pré-cuites, le riz pareil, presque mâché et mastiqué avant qu'on le cuisine. Enfin voilà, tout ça c'est pas bon pour notre organisme.
Hein. Non, effectivement, c'est des choses qu'on connaît pas en général, donc c'est bien qu'on les décrypte et qu'on les décrypte notamment avec des expériences, des choses assez ludiques. Ça rentre bien dans les esprits, ça.
Parce qu'on a l'idée que les céréales, c'est bon pour nous.
Bah oui. Les céréales, à la base, c'est bon pour nous. Ça dépend quelles céréales et comment on les prépare. C'est toujours pareil.
Eh ben Charlotte Exactement. Va nous en parler dans un instant avec les chefs qui magnifient les céréales, justement. Mais avant, tiens, on va parler de vous, Marina. Bonne vivante depuis toujours. Vous êtes mise à la cuisine sur le tard ou
Ah, c'est moins qu'on puisse dire, oui. Parce que j'adore ma mère, qui est une femme remarquable, mais qui ne sait pas cuisiner, qui n'a pratiquement jamais cuisiné, et qui avait deux spécialités. Elle faisait une très bonne tarte aux pommes et un très bon soufflé. Sinon, elle avait des gâteaux ratés. Grande spécialité, c'est à peu près tout ce qu'elle faisait. Donc je n'ai pas du tout appris à faire la cuisine. Et quand j'ai rencontré mon mari, qui cuisinait très bien, moi je ne savais même pas réchauffer un truc. Ah non, c'était une catastrophe. Et puis au fur et à mesure, je me suis mise à cuisiner et maintenant j'ai une passion pour ça. Mais c'est vraiment, j'ai pas pris des cours de cuisine dans mon enfance, c'est le moins qu'on puisse dire.
Et vous qui êtes médecin, alors justement on en parlait, on blaguait sur Hippocrate, mais c'est important pour vous de concilier les deux, le plaisir et la gourmandise et la santé?
Oui, mais en fait j'ai l'impression que je suis un peu comme beaucoup de gens dans notre pays, c'est-à-dire que la cuisine a vraiment évolué, enfin ce qu'on mange a vraiment évolué. Moi je me souviens quand mes enfants étaient petits, le dimanche il y avait souvent du pâté, du saucisson en entrée, il y avait souvent, on mangeait très souvent de la viande, et de manière tout à fait spontanée, hein, c'est une évolution, je mange beaucoup moins de viande, je mange pas pratiquement plus aucun plat en sauce, la charcuterie, mais c'est tout à fait exceptionnel et c'est pas une volonté d'être meilleur pour la santé, c'est une évolution générale, je crois, des Français.
Alors, plat en sauce, on vous fait une dérogation aujourd'hui parce qu'on a un plat du jour spécialement pour vous et qui va plaire à nos auditeurs et qui devrait vous plaire, je pense.
Très bien.
Et un petit indice, tiens, si vous connaissez, c'est Bertrand Boineau qui est en coulisses actuellement, qui se promène, qui est du bistrot parisien Paul Bert, qui viendra pour le plat du jour tout à l'heure. Je vous en dis pas plus.
D'accord, d'accord.
C'est une surprise.
Très bien.
Quel est votre goût de la semaine, Marie? Marina Carrère d'Encausse.
Oui, ça va avec l'établé familial, parce que c'était dimanche, c'est encore la semaine, hein, l'anniversaire de mon fils aîné, qui avait, je lui ai demandé ce qu'il voulait pour le repas familial, qui était au déjeuner, hein, je vous rassure, pendant...
Oui.
À l'heure, on a le droit de manger ensemble.
On est chez soi à 19h.
Et il m'a demandé un plat familial de mon pays, puisque je suis à moitié russe, et donc j'avais fait du bœuf stroganoff avec la kasha, parce que c'est lui qui l'avait choisi, et ils ont adoré tous.
Kasha, sarrasin grillé.
Absolument.
Hein, c'est ça.
Alors la kasha, c'est resté notre... Moi, j'en mangeais trois fois par semaine quand on était petit, et c'est resté un truc que je mange très souvent, et j'adore ça.
C'est bon ça, en plus,
ah, c'est excellent.
Que j'adore, on peut en mettre sur les salades aussi.
Mais simplement comme ça, avec un poisson, avec une viande, c'est excellent la kasha.
Alors je le disais, vous présenterez mardi soir un documentaire autour des céréales transformées sur France 5, hein, les farines, les pâtes, les riz. Elles ne nous veulent pas que du bien, on en parlera tout à l'heure. Mais juste avant, Charlotte, vous avez repéré des chefs qui, eux, prennent les céréales du bon côté et qui s'amusent à magnifier les céréales et surtout les céréales brutes, on va dire.
Hein. Oui, c'est ça. En plus de leur vertu pour la santé, vous le disiez, Marina, ils ont repéré leurs propriétés gustatives quand même. Parce qu'une céréale non raffinée, complète ou ancienne, elle n'a pas le même goût ni la même façon de se cuisiner que les produits industriels. Il y a plus de caractère, moindre sucre, c'est plus intéressant.
Alors on pense aux pâtes, évidemment, dont la composition, et on le verra dans le documentaire, s'est diversifiée depuis quelques années.
Oui, hein. Surtout depuis la rencontre entre le chef William Ledeuil et le paysan meunier Roland Feuillasse, apôtre de l'épeautre, et de toutes les variétés de blés anciens. Alors en grains, blés durs, barbus du Roussillon, Corassan, leur collaboration, elle s'est matérialisée dans un restaurant de pâtes, Kitchen Terre, à Paris, assez unique en son genre, tenu par la chef Pandora Métayer, qui prépare des pâtes de haute volée. Alors, je vous donne un exemple, de la dentelle de cucugnan. C'est du blé dur avec du caviar d'aubergine, un curry vert de basilic thaï et un condiment piment miso.
Je connais, c'est à tomber. Je vous le conseille, Maria.
Ou alors un blézotto, donc un risotto à l'engrain avec des ailerons de volaille, de la tomate confite, un bouillon thaï, une vierge de fenouil.
C'est magnifique.
C'est
bien. Oh. Boulevard Saint-Germain, ça rouvre bientôt. Ah, il a une terrasse. Oui, il a une terrasse, donc ça va rouvrir.
Oui, oui.
Les terrasses, à chaque fois, j'inverse. Les terrasses,
le 19, on y arrive, là, on le voit.
Alors il y a de nombreux grands chefs aussi qui ne prennent pas les céréales à la légère, comme William. Hein.
Effectivement, la preuve, la recette toute simple de granola de Jessica Prealpato, la chef pâtissière au Plaza Athénée. C'est comme une barre de céréales à base d'avoine, mais elle met plein de graines de courge, de tournesol, d'abricots secs, de raisins secs, d'amandes. Son compère Romain Méder en cuisine y sert un petit épeautre de Provence aux champignons et aux asperges des bois. Mmh. Si on va du côté du chef Régis Marcon en Haute-Loire, qui a écrit un livre de recettes sur les légumineuses et les céréales qui vont bien ensemble d'ailleurs. On y trouve un cake de petit épeautre, un gâteau de millet à la fraise et à la mélisse. Triche de Seine vient elle aussi de sortir un livre succulente céréale plus accessible.
Inspire, les céréales,
oui, ça, voilà. Avec des pâtes par exemple brocoli, citron, mascarpone et parmesan. Qu'est-ce que vous en dites ?
On en dit du bien.
Et puis pour achever de montrer que quand même les céréales ont la cote, Michel et Sébastien Brasse, les chefs de l'Aïeul bien connus, ouvriront bientôt le restaurant de la Halograin dans la Bourse de Commerce où sera logé le musée de la collection Pinot. Et donc ces chefs aveyronnais, ils vont mettre le grain, les graines, les semences de tous les pays et de toutes les familles à l'honneur. Ça sera germé, grillé, soufflé, infusé ou fermenté. On a un peu hâte, non ?
On n'avait pas déjà assez d'adresses de restaurants en France. Hein,
c'est vrai. Hein, on a besoin d'y retourner.
Et puis on est un pays où on a le plus de chance, honnêtement. J'ai rarement vu autant de bistrots, enfin, tout ce qui s'appelle les bistronomiques, donc des endroits, honnêtement, qui sont à des prix tout à fait raisonnables, aussi excellents. C'est incroyable le nombre qu'on a en France.
Une génération de jeunes chefs qui débarquent, qui est créative, inspirée, et puis qui respectent aussi vraiment la saison et le local.
Absolument. On n'a jamais aussi bien mangé, je pense.
C'est vrai.
On n'a jamais aussi bien mangé.
Absolument.
Je pense qu'on peut
aussi varié.
Puis ils revoient les recettes, ils prennent en compte justement toute cette santé, l'environnement,
absolument,
tout ça, on a de la chance.
Merci Charlotte Langrand.
Mais de rien Laurent Mariotte.
Et on vous retrouve demain dans le journal du dimanche.
Bien sûr.
Et jusqu'à midi et demi à cette table des bons vivants, vous pensez bien. Allez, on revient après les titres du journal de la mi-journée de Jean-François Pérès. Alors je vous le disais, il y aura un plat du jour rassembleur, un classique à la sauce printemps. Allez, petit indice pour vous Marina et pour les auditeurs. C'est un plat qui aurait plu au commissaire Maigret. Vous me voyez venir ?
Déjà, peut-être qu'il y a du vin dans la sauce.
Gagné. Je pense que oui. Attends, je pose la question, il y a mis du vin dans la sauce ou pas ? Non, il n'y en a pas.
Non, ouais,
je vous en mets dans votre verre, vous inquiétez pas.
Ce sera après les titres du journal de la mi-journée. À tout de suite. Vous écoutez Europe 1, il est midi. Les titres d'Europe Midi, Jean-François Pérez. Bonjour Jean-François.
Bonjour Laurent, bonjour à tous. Dans une demi-heure sur Europe 1, le journal de la mi-journée. À la une, le 1er mai, bien sûr, un 1er mai qui sera marqué par le retour dans les rues du muguet et des manifestations. Partout en France, après une année 2020 confinée, 150 rassemblements sont prévus. À Paris, le cortège s'élancera de la place de la République, direction Nation. 15 000 manifestants sont attendus, présence policière renforcée, on craint la présence de casseurs. Parmi les points de crispation sociale, la réforme des retraites ou encore de l'assurance chômage, vous entendrez Philippe Martinez, le patron de la CGT, qui était ce matin sur Europe 1, et Marine Le Pen, qui a déposé une gerbe au pied de la statue de Jeanne d'Arc, avant de s'en prendre à Emmanuel Macron. La crise sanitaire et la vaccination étendue depuis ce matin à tous les adultes majeurs souffrant de comorbidité. Cela représente environ 4 millions de personnes. Nous avons rencontré l'une d'entre elles. Pendant ce temps en Inde, le Covid fait des ravages, 3500 morts rien que pour la journée d'hier et encore les chiffres sont sans doute en dessous de la réalité. Reportage sur place, la France qui débloque une aide d'urgence qui partira cet après-midi. L'actualité très riche ce week-end, c'est d'abord Monaco qui remporte l'Eurocoupe de basket aux dépens des Russes de Kazan. C'est la première fois qu'un club issu du championnat de France remporte un titre européen depuis Limoges en 1993. Le foot et un nouvel épisode à suspense en Ligue 1 cet après-midi. Trois équipes qui se tiennent en deux points. Cet après-midi, 17h, le PSG accueille Lens, dont le car a été vandalisé cette nuit près du Parc des Princes. À 21h, le leader lillois recevra Nice. Des matchs, bien sûr, à vivre sur Europe 1. Et puis le rugby, avec la première demi-finale de la Coupe d'Europe 100% française, Toulouse-Bordeaux-Bègles, c'est à 16h. Enfin, n'oubliez pas votre rendez-vous avec Tout Terrain, le magazine des reporters d'Europe 1, la rentrée des classes sous haute surveillance, la cybercriminalité ou encore les propriétaires des grands crus bordelais au secours des Girondins, le club de foot local qui est en danger. C'est parti à partir de 13h.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
On retrouve tout de suite Laurent Mariotte et ses invités à la table des bons vivants sur Europe.
Qu'est-ce que c'est bon,
mais
ça.
Qu'est-ce que c'est bon.
Casser l'œuf en deux, de voir couler ce jaune, c'est de l'amour.
En fin de bouche, on est cueilli par une petite acidité.
Europe 1, 11h, midi 30.
Ça va, c'est la saison, ça.
Oui, c'est bien.
J'ai eu chaud aux fesses. Hein.
La table des bons vivants, Laurent Mariotte.
Bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et demi. Merci encore pour votre belle fidélité chaque samedi de 11h à midi et demi. Alors, on a fait le tour du Pont l'Évêque tout à l'heure. On s'est demandé, tiens, si la nourriture avait un sexe grâce au livre de Nora Boisini qui s'appelle Stexisme. On a aussi décortiqué le coût du goût pour comprendre la juste rémunération des producteurs et puis ce que les consommateurs étaient prêts à payer. Vous retrouverez tout ça dans le podcast sur Europe 1. Et nous revoilà avec notre invitée Marina Carrère d'Encausse, qui vient nous voir avec un roman qui s'appelle Les Enfants du Secret aux éditions Héloïse d'Ormesson. Tout se passe bien, Marina ?
Ah ben, je suis très heureuse ici, moi.
Ah ben, tant mieux. Tiens, ben, j'ai une petite citation pour vous. La bonne cuisine, c'est le souvenir. Vous savez qui a prononcé cette belle parole ?
Ah non, mais ça peut être que des gens amoureux de la vie, ça.
Oui, c'est quelqu'un que vous aimez, c'est Georges Simenon, l'auteur des Maigret.
Ah ben ça, c'est sûr.
Parce que vous l'aimez, Maigret, hein, le commissaire.
Ah, mon livre, d'ailleurs, lui est dédié.
Et il dédicace.
Absolument, parce que c'est grâce à lui que j'ai découvert la lecture, je dois dire, et le polar, et que je suis une fan de ce commissaire, de sa femme, de tout ce qu'elle fait à manger, de son foie de veau, bonne femme, là, toutes ces recettes hallucinantes. J'adore, moi, vraiment.
Alors, Les Enfants du Secret, c'est votre roman. Ça se passe à Paris, Porte de la Chapelle. Il y a deux hommes qui sont retrouvés défigurés, scarifiés, sans empreinte. Ça commence bien. L'enquête est confiée à la commandante de la CRIM. Et elle n'est pas au bout de ses surprises parce que ça démarre à peine l'enquête. Et bien qu'il y a le médecin légiste qui meurt juste après l'autopsie. Il s'en passe des trucs, hein.
Il s'en passe, effectivement. On me dit que c'est un peu noir. Moi, je trouve pas que ça soit noir, mais enfin, c'est pas grave. Et oui, j'avais pas prévu, effectivement, la médecin légiste qu'elle allait mourir. Et en fait, parce qu'effectivement, il y a un début d'épidémie lié à un virus émergent. Et moi, j'avais fini mon roman avant le début de la pandémie.
Avant.
Il a été retardé à cause de la pandémie. Mais il était fini bien avant, mais simplement parce que ces virus émergents, c'est un support de polar absolument incroyable. C'est effectivement quelque chose qui plonge dans un monde assez inconnu, qui peut permettre d'aller à différents coins du monde pour chercher d'où peut venir ce virus. Et du coup, comme on ne connaît ni la transmission, ni la rapidité de contagiosité, etc., c'est un moteur fascinant.
C'était
visionnaire, votre truc.
Oh non, je ne suis pas la première à parler de... Franck Thiez a effet Pandémia sur à peu près le même thème. Lui, c'était tout son roman. Moi, c'était juste un moyen de tuer la médecin légiste.
Mais souvent, les romanciers, oui, parfois, parlent de choses qui arrivent après. Hein. Vous parliez de Maigret, justement, de votre amour du commissaire Maigret. Ouais. La table a son importance dans les romans de Simenon.
La table et les verres, hein, parce que c'est ça, quand même, quand on relit Maigret, c'est effrayant ce que Maigret pouvait boire, quand même.
Et
à toutes les heures, hein, c'est-à-dire qu'il commençait à 10h du matin, avant de partir déjeuner, il prenait des pastilles, ensuite il prenait du blanc, il prenait un digestif. C'est impressionnant, hein, c'était vraiment la façon dont peut-être on vivait avant, mais c'est quand même cogné. Hein.
Alors c'est l'heure du plat du jour, à la table des bons vivants. Vous connaissez le plat préféré du commissaire Maigret, alors ?
Ah ben moi j'en connais plusieurs, donc moi, un de ceux qui me fascinent le plus, c'est son foie de veau bonne femme, j'aimerais bien le faire. Sinon,
La blanquette. Il y a la blanquette du commissaire Maigret. Ça, ah ben regardez, bonjour. Elle arrive en direct justement du bistrot Paul Bert.
Bonjour, commissaire.
Avec Bertrand Aubouineau qui nous apporte cette belle blanquette de printemps. Alors vous allez nous en parler, Bertrand, parce que vous êtes venu avec Thierry Laurent, votre chef et complice. Bonjour Thierry.
Bonjour.
Merci, avec la tenue de chef et tout. Un mot sur cette blanquette, racontez-nous, tiens.
Une blanquette traditionnelle, une blanquette de veau à l'ancienne. Sauf que là, on l'a fait avec des petits légumes de saison, des asperges et des petits pois.
Elle est belle, là.
Et des morilles fraîches.
Belles asperges vertes.
Et la sauce, elle sent bon. Hein.
Alors vous disiez les plats en sauce, ça vous fait un peu peur.
Non, c'est surtout les poissons en sauce.
Ah bah,
je suis pas poisson en sauce, moi.
Ah bah voilà.
Je trouve que ça tue le goût du poisson.
Ça dépend des poissons.
Oui, c'est bon.
Alors, belle sauce, bien liée, bien relevée et bien acidulée aussi.
Oui,
le petit trait de jus de citron dedans.
Tout à fait.
Le secret de ces sauces dynamiques.
Parce que pour moi, c'est vraiment le plat de Maigret, ça, hein, Bertrand Bonneau, hein, la blanquette. Dans les séries avec Jean Richard, il revenait souvent manger sa blanquette. Alors, vous êtes le patron du restaurant Paul Bert, qui est une institution du bistrot parisien à Paris, rue Paul Bert, dans le 11e arrondissement. On est content, il y a des bonnes nouvelles qui se profilent.
D'abord, il y a des bonnes nouvelles qui se profilent, et puis de toute façon, ça fait plus de 20 ans qu'on est là, et c'est pas ce petit virus qui va nous tuer.
Alors, non, mais vous résistez avec la livraison et le click and collect.
Ouais, pour nous, c'est compliqué, ça.
C'est compliqué parce que...
C'est pas notre manière de cuisiner.
Mmh.
On a fait des essais, on en fait un petit peu. Je voudrais pas que ça dure trop longtemps.
Non, et en plus, vous avez une vraie clientèle internationale parce que votre restaurant, c'est vraiment le bistrot parisien dans sa quintessence et les touristes aiment bien venir chez vous dans le 11e.
Bah, nous, on avait une très grosse clientèle américaine, entre autres, qui a totalement disparu du jour au lendemain. Et qui était ce qui m'a fasciné quand j'ai vu commencer à arriver chez nous des clients étrangers, dont américains et sud-américains, c'est la connaissance qu'ils avaient de nos plats de bistrot et de l'engouement qu'ils avaient pour la blanquette, la saucisse purée, le lièvre à la royale, etc. Ce sont des plats qu'on fait depuis toujours, nous, mais qui étaient, on avait l'impression qu'ils ne le découvraient pas, mais ils étaient tellement contents d'en avoir, quoi.
Alors Marina Carrère-Danco, cette blanquette de printemps.
C'est une merveille, c'est une merveille. C'est-à-dire que ça, c'est effectivement des plats souvenirs. Hein. Non pas de mon enfance, puisque c'est pas ça.
Mais... Oui, parce que, si, votre maman, vous l'avez dit, la tarte aux pommes, elle est soufflée quand même.
C'est pas la blanquette, hein. C'est quand même trop
élaboré. Il y a des morilles aussi, hein, le champignon.
L'idée, elle était là, c'était d'essayer de revisiter un peu les plats bistrot, bien que j'aime pas beaucoup ce terme. C'est d'arriver, moi je voyais pas bien pourquoi est-ce qu'on aurait mangé toute notre vie du riz avec la blanquette. Je veux dire, c'est un espèce de support pour la sauce, mais c'est pas très intéressant.
Alors là, ça va plaire à Christophe Bourseiller, qui était notre invité la semaine dernière, et je sais qu'il nous écoute, qui déteste le riz avec la blanquette.
Moi, je trouve que...
C'est arrivé après la Seconde Guerre mondiale, le riz dans la blanquette.
Absolument, absolument. Mais là, on est entre deux saisons, on finit l'hiver, en plus on a tous ras-le-bol, quoi, je veux dire, il y a un moment. Et je pensais que mettre des légumes verts... avec la morille qui est entre l'hiver et le printemps, donc c'était une espèce
avec les petits pois croquants,
un petit gimmick. En plus, nous, on a nos propres potagers, donc dès que les légumes arrivent, on a envie de les mettre dans les assiettes, etc. Donc,
la morille qui est un des champignons qu'on ne mange jamais cru.
Absolument toxique.
Il y a eu une aventure formidable. Il y a eu le Club des 100 dans un hôtel que je ne citerai pas.
C'est vrai.
Qui tout d'un coup a vu des messieurs tous un peu âgés du Club des 100 sortir de table les uns après les autres, certains partir en ambulance. Le commis avait fait des morilles crues dans une salade.
Carpaccio de morilles.
C'est un truc incroyable.
Au moins un quart d'heure de cuisson.
Minimum un quart d'heure. 20 minutes, vous êtes sûr. Qu'est-ce qu'on boit avec ça, Olivier Pouls, avec cette belle recette que les auditeurs retrouveront sur europe1.fr?
Ben là, je vous fais un accord de couleurs. Blanquette blanche avec un vin blanc, évidemment, d'autant qu'on a les morilles, on a les asperges, on a les petits pois. Et je vous emmène dans une petite appellation que vous connaissez peut-être, de l'Hérault, qui s'appelle le Picpoul de Pinet.
Joli nom,
qui donne un vin, je trouve, assez ciselé, assez printanier aussi dans son expression, et qui se marie, je trouve, admirablement avec cette blanquette. C'est la Croix Gratiot. C'est un vin féminin, figurez-vous, parce que c'est une femme, Anaïs Ricaume, qui le produit, qui fait partie d'un petit groupement d'ailleurs de femmes vigneronnes. Et je trouve qu'avec cette blanquette, ça nous met bien dans le
l'esprit du printemps. Vous validez, Marina ?
Ah oui, tout à fait. Très, très agréable avec.
Bel accord, un vin blanc, viande blanche.
Bien sûr.
Pareil
bien
pour
sûr.
La volaille du dimanche, pour le poulet rôti, sortez le vin blanc.
Il ne faut surtout pas s'interdire des choses. Moi, mon grand-père, qui était bordelais, m'avait appris effectivement qu'il fallait, avec certains fromages, boire du vin blanc.
Bien sûr.
Il fallait essayer, sortir un peu des dogmes.
Bien sûr.
Traditionnel.
Et je veux dire d'ailleurs que le bistrot Paul Bert a une carte des vins qui...
Oui, qui ne plaisante pas.
On s'est connu comme ça. D'ailleurs.
Dans la cave. Merci Bertrand Boineau d'être venu et bravo pour cette belle blanquette de printemps.
Merci, ça m'a fait plaisir.
Qu'on peut commander en click and collect.
Pour l'instant, on peut la faire en click and collect, mais j'espère qu'on vous la servira.
Ah bah bientôt.
En présentiel.
Les terrasses se préparent dans Paris. Ça y est, les places s'installent. Et puis après, hop, nous serons au mois de juin, le 9 juin, pour la réouverture totale dans tout le pays des restaurants. Et on a hâte et on pense à tous nos restaurateurs, cuisiniers. Il y a tout le personnel de salle aussi qui a hâte. Ne bougez pas, Marina Carrère-Mancos.
Ne vous inquiétez pas, je reste.
Il y a un dessert. On est ensemble jusqu'à midi et demi. On se retrouve dans un instant avec vos 2 minutes du vin. Tiens, Olivier, justement, vous nous emmenez dans le Bordelais à la découverte des grands crus en primeur. A tout de suite et bonne cuisine, si vous êtes en train de la faire.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Nous revoilà avec notre invitée Marina Carrère-Dancos autour d'une blanquette de veau de printemps signée du bistrot parisien Paul Bert. Il en reste encore un peu, mais on l'aura fini d'ici midi et demi.
Bien sûr, ne vous inquiétez pas.
Non, mais c'est vrai que c'est délicieux, c'est un accord encore une fois tout simple.
Bien meilleur qu'avec le riz.
Oui, c'est vrai.
Qui boit toute la sauce en fait.
Là, oui, puis il y a ce côté un petit peu fraîcheur, végétal, et c'est la bonne conscience aussi, le légume, ne l'oublions pas quand même. Alors vous présentez depuis 20 ans le magazine de la santé sur France 5, déjà 20 ans,
oui,
Marina.
Oui, ça, pas trop le dire.
Mais non, mais si, vous savez que c'est ce qui est le plus difficile à la télévision quand même, cette durée.
Bah oui, mais apparemment on avait trouvé effectivement le bon concept, puis les gens avaient besoin de ce qu'on apportait.
Et comment
bien.
Vous présentez un documentaire mardi 4 mai, un documentaire qui s'appelle « Céréales 2. Qui nous roule dans la farine ». Il est surtout question des produits transformés issus des céréales.
L'idée qu'on voulait donner, d'expliquer que, encore une fois, effectivement, d'acheter la céréale de base et la cuisiner soi-même, c'était quand même l'idéal. Et que toutes les solutions, notamment pour faciliter la vie, les riz qui sont pré-cuits, qui cuisent en sachet en 5 minutes, c'est pas une bonne idée. Il vaut mieux effectivement y mettre un quart d'heure que de mettre 5 minutes et d'avoir quelque chose qui est plus bon du
Pourquoi
tout. Mais parce que le problème de la pré-cuisson fait que, de toute façon, d'abord, ces produits se mangent en général, comme ils sont plus mous, ils se mangent plus vite. Et on sait que ça, c'est pas bon pour la santé, parce qu'on en mange plus en général. Et puis, parce qu'en général, les index glycémiques sont plus élevés dès lors que la cuisson n'est pas parfaite. Et vraiment, les sachets pré-cuits, c'est pas du tout une bonne idée.
L'amidon se transforme en sucre rapide.
Voilà. Et d'ailleurs, on le sent au goût.
Il y a une très bonne séquence dans le documentaire sur le riz. Raphaël Aumont fait un test avec 6 cuissons différentes du riz. Et on voit à quel point il explose.
Absolument.
Plus on le cuit, plus le temps est long.
Et on sent au goût, ça devient plus sucré. Effectivement. Et Raphaël Aumont sera là pour le débat aussi, pour faire d'autres démonstrations.
Oui, il y a un débat après le documentaire, mardi
notamment
soir.
Notamment avec les pâtes, lui, il fera une démonstration.
Il y a une très belle phrase dans votre documentaire. Il y a un intervenant qui dit à propos de ces riz pré-cuits et de ces pâtes pré-cuites, si on mâche trop le travail, on mâche trop l'aliment.
C'est exactement ça. Exactement. Mais honnêtement, cuire un quart d'heure du riz,
franchement,
sans sachet, on peut le faire. On peut le faire, on est obligé de rester devant. Donc voilà, il faut perdre aussi ses habitudes de tout ce qui est trop préparé.
Oui, et puis de vouloir toujours d'avoir des choses qui se font vite, effectivement. Voilà. Il faut manger lentement aussi, ça participe à une bonne alimentation.
Oui, mais pour manger lentement, c'est mieux effectivement d'être à table si possible, à plusieurs, c'est-à-dire que si tout le monde peut manger à la même heure, au moins le soir, c'est quand même bien. On est quand même un pays de tradition de table, de tradition où on discute à table, où on s'engueule à table, où on refait le monde. Profitons-en, il y a plein de pays où ça se fait plus ça de s'asseoir avec des amis. C'est quand même bien ce qui nous manque aussi dans les restaurants fermés.
Et comment ? Et dans ce documentaire, vous parlez aussi des céréales, du petit déjeuner pour les enfants. Et alors pareil, un de vos intervenants, je trouve qu'il a résumé la problématique en une seule phrase. Il dit « c'est pas des céréales, c'est des confiseries ».
C'est vrai.
C'est gavé de sucre, ces trucs-là.
Oui, et c'est vrai que c'est du marketing, mais c'est dur pour les mères. C'est vrai que les mères n'ont pas forcément le temps d'aller faire surtout en ce moment, elles ont 5 boulots, d'aller faire un petit déjeuner. Mmh. Bon, mais que ça sera toujours mieux de faire
prendre
une baguette.
Confiture.
Exactement. Voilà, ça sera toujours mieux. Mais si vous voulez, comme c'est toujours dans les produits d'appel, dans les grandes surfaces et tout, c'est difficile. Les mômes, ils voient que ça.
Vous me faites rire, Olivier, parce que depuis que Marina parle, vous avez terminé la blanquette.
Alors il en profite.
Je plante mon
assiette parce qu'il va attaquer la mienne, comme moi je peux pas manger.
Je vais vous dire un truc.
Ça vous va comme petit-déj à la place des céréales, la blanquette?
Bien sûr, mais je vais vous dire un truc. Je n'aime pas manger froid. Et donc, comme cette blanquette est arrivée à la bonne température, j'en ai profité. Et je vous ai laissé la parole, d'ailleurs, vous avez pu discuter tranquillement pendant que je finissais.
C'est une politesse vis-à-vis des chefs.
Mais oui, bien sûr.
C'est
le ballon. Je finissais mon assiette de blanquette.
Et là, je dis attention, c'est là qu'on reconnaît le grand professionnel, parce qu'il a fini à temps son assiette.
Pour parler,
pour ces 2 minutes du vin. C'est le moment de vos 2 minutes du vin. Mais quel sens du timing, mais c'est admirable. Vous revenez de votre pèlerinage, justement, en terre bordelaise, et vous avez fait une chose qu'on aimerait faire. Beaucoup d'auditeurs aimeraient faire ce beau pèlerinage et déguster les dernières cuvées en primeur.
Ah oui, c'est un rituel hein, chaque année à Bordeaux. C'est vraiment une spécificité bordelaise. Il consiste donc en fait à mettre les vins en vente avant qu'ils ne soient en bouteille. C'est pour les facilités de trésorerie. Et donc, dans quelques semaines, vont être mis en vente les derniers vins récoltés, c'est-à-dire le millésime 2020. Mais avant qu'ils soient mis en vente, encore faut-il pouvoir les juger et savoir si on est en présence d'un petit, d'un grand, d'un moyen millésime. Et donc, ben, la presse, dont j'ai la chance de faire partie...
Et oui, parce que vous testez pour la revue du vin de France, voilà, à laquelle vous participez régulièrement.
Et nous nous rendons à Bordeaux pour déguster pendant quelques jours ces vins.
Question rituelle, c'est notre 3e saison de la table des bons vivants. Je vous l'ai déjà posé l'année dernière et l'année précédente. Mmh. Alors, que vaut ce millésime 2020?
Ben, c'est vrai que force est de constater quand même que depuis quelques années à Bordeaux, la qualité des vins a fortement progressé. Alors, c'est dû
d'une part à la technique. Vous dites ça tout le temps, j'avais dit ça l'année dernière déjà.
Mais je pense que l'effet grand millésime n'existe pratiquement plus. La nature est extrêmement généreuse avec le vignoble. Alors, on va me dire qu'il a gelé là, il y a quelques semaines, et que ça c'est très dur, c'est autre chose. Mais on a des étés plus chauds, on a des arrières-saisons beaucoup plus chaudes, et on n'a plus ces problèmes de maturité qu'on a pu avoir. Donc, l'effet grand millésime, il est en train de disparaître. Oui, 2020, après 2019, après 2018... est encore un beau, voire un très beau millésime. Alors, il y a des styles un petit peu différents entre ces millésimes. On va dire que 2020, un profil peut-être un peu plus classique, alors qu'en 2018, un profil plus exubérant.
Ça va coûter cher, ces millésimes, ces vins?
Alors, les prix ne sont pas faits, mais le contexte économique n'incite pas, à mon avis, à une hausse spectaculaire des prix. On sort quand même d'une pandémie, l'économie mondiale n'est pas en très grande forme, et je pense qu'il serait malvenu de la part des Bordelais que d'essayer de gagner plus d'argent sur ce millésime qui n'est pas forcément meilleur que les deux qui viennent de passer. Donc on devrait assister à une certaine stabilité. Mais je voudrais quand même redire, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est que Bordeaux a cette image de vin hors de prix, de château inaccessible. Évidemment qu'il y en a, il y a une cinquantaine de marques qu'on ne peut plus payer. Mais il existe des dizaines et des dizaines de châteaux dont les prix démarrent à 5-6 euros la bouteille. Hein. On n'est pas du tout dans des choses inabordables et qui ont des capacités de garde et qui peuvent être achetées en primeur à des prix tout à fait intéressants.
Vous aimez les Bordeaux, Marina Carrère-Dancos?
J'adore le vin, moi. J'aime aucun autre alcool, mais j'adore le vin. J'ai été bien élevée à ce propos.
Ah.
et effectivement,
l'éducation au goût, c'est important.
Absolument, hein. Et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Vin blanc, vin rouge, les Bordeaux, les Bourgognes. Et je découvre en permanence des bonnes choses. Et je parlais des restaurants bistronomiques. Dans les bistronomiques, ils ont souvent des cartes très intéressantes. Moi, je découvre des nouvelles choses.
Des vins nature aussi, des vins bio, effectivement.
Oui, et il faut bien reconnaître que Bordeaux n'a plus tellement la cote dans ce genre de restaurant. Il y a ce qu'on appelait le Bordeaux bashing. Et je pense qu'il serait temps qu'il retrouve le goût de ces vins de Bordeaux qui, franchement, ne démérite pas.
Eh bien, bonne cuisine et bonne app si vous êtes à table. On va passer sur le grill des bons vivants. Mais je vous donne la blanquette, il y en a encore un peu. Parce que moi, il faut que je cause. On revient avec le questionnaire des bons vivants pour Marina Carrère-Dancos. À tout de suite.
On passe à table sur Europe 1. Laurent Mariotte.
Le temps passe vite. Dernière partie à notre table avec Marina Carrère-Dancos. Je vous le disais, qui est venue nous voir avec une belle actualité. Son roman, Les Enfants du Secret, aux éditions Héloïse d'Ormesson. On va parler de nourriture et de plats ultra transformés, de plats industriels. Vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Avant, une question vous concernant. Je me suis renseigné. Il paraît que vous aimez bien sentir tout ce que vous mangez.
Oui, mais parce que je suis complètement névrosée, j'ai peur de m'intoxiquer.
C'est vrai.
Donc, et comme je mange pas mal de cru en plus, parce que je mange beaucoup de poissons crus, mais par habitude maintenant, je sens absolument tout et c'est complètement, c'est grave. Hein. Mais bon, c'est comme ça.
Non, mais
je,
c'est
je peux
vrai
pas
que
m'en
c'est
empêcher.
Un sens important aussi du plaisir.
Oui, mais c'est
j'aime sentir une assiette.
C'est à la fois plaisir, mais moi je peux vérifier.
Mais je fais comme vous, moi je sens tout le temps. Oui, absolument.
Ah,
oui, sur les dates de péremption, j'ai des petits flips aussi, moi, régulièrement.
Ah, je suis pas toute seule.
Non, je suis un peu comme vous. Il y a qu'Olivier Pouls qui attend que les barquettes ou les yaourts gondolent, vous savez, à la surface. Et c'est là qu'il arrête de les manger. Mais sinon, il regarde même pas les dates.
Non, mais pour le vin, il n'y a pas de date de péremption.
Ça, c'est vrai. Absolument.
Je vais garder longtemps.
Marina Carrère d'Encausse, la passion de bien manger et de cuisiner est venu sur le tard,
oui,
vous nous en parliez. Qu'est-ce que vous gardez en mémoire comme odeur en cuisine de votre enfance? Le cachal, sarrasin grillé.
Le cachal, c'est quelque chose de... C'est une odeur, même quand il n'est pas cuit. Je trouve ça fascinant, cette odeur d'un petit peu fumé. C'est
grillé, fumé,
voilà,
oui.
Ça et la tarte aux pommes de ma maman.
Ah, tarte aux pommes de votre maman.
Tarte à l'alsacienne qu'elle faisait. Elle faisait souvent le dimanche. Et c'est vraiment, c'est un souvenir que j'ai gardé... de mon enfance.
On va parler de vos goûts de votre enfance tout à l'heure. Alors j'aimerais qu'on parle de plats déjà préparés, c'est pas le genre de la maison, de produits ultra transformés et de plats industriels. Je vous explique pourquoi, parce que vous participez, Marina Carrère d'Encausse, avec Raphaël Aumont et Benoît Thévenet, vos complices, à un très bon livre, franchement, qui s'appelle « Halte au plat industriel » paru aux éditions de La Martinière, en collaboration avec votre MAC de la Santé. 80 recettes pour en finir avec les produits ultra transformés. On le sait, on va pas dire les choses, on va dire les choses clairement. C'est un poison, voilà.
On a pris effectivement les recettes les plus consommées et qu'on peut effectivement, qui sont vraiment pas bonnes pour la santé et qu'on peut facilement faire soi-même. Alors c'est pas moi qui fais, c'est Raphaël, hein,
oui.
Bien sûr, qui lui a fait les recettes. Moi j'ai analysé la partie santé, mais c'est effectivement plein d'idées malignes pour faire ça en plus avec ses enfants en famille le dimanche.
Cordon bleu.
C'est hyper sympa, voilà le cordon bleu. Je crois que Raphaël a analysé, il y a pratiquement entre 15 et 20 produits dans un cordon bleu qui doit en contenir 4. C'est du délire.
C'est de la folie.
Et ça, moi j'ai appris avec lui, à partir du moment où il y a plus de 5 ingrédients dans un plat,
on oublie.
Fait soi-même.
Les nuggets.
Bien sûr, et on comprend que les enfants aiment ça. On le fait soi-même.
Le poisson pané.
Oui, ça.
Parce qu'il faut bien penser que les industriels, ils sont malins. Ils vont acheter une matière première qui coûte cher. Eh bien, ils vont en mettre le moins possible et ils vont compenser par des détournements. C'est-à-dire que dans le poisson pané, il y a plus de panure que de poisson, par
ça,
exemple.
C'est sûr.
Et on met du sucre pour rendre les enfants addicts.
Mais dans le cordon bleu, il y a souvent énormément de panure aussi. Donc, ils sont tout prêts.
D'où l'importance d'apprendre à lire les étiquettes pour savoir quel est le premier ingrédient dans la liste.
C'est vrai, mais c'est vrai que si on fait des courses, honnêtement, en lisant toutes les étiquettes, c'est un enfer,
oui,
quand même.
Mais donc ça peut devenir une gymnastique, une habitude. Il faut se forcer au début.
C'est pas des lunettes qu'il faut, c'est des loupes. Hein, parce
mais
que c'est
vrai,
c'est petit.
Oui, c'est un peu fait exprès.
Ils sont malins, tu m'étonnes. Tiens. Vous parlez des additifs aussi,
oui.
dans ce livre. Hein.
Ben oui, bien sûr, parce qu'on est obligé. Et ça, c'est Raphaël aussi qui m'avait expliqué ça, c'était très intéressant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on met un additif, par exemple, pour garder le produit plus longtemps, ça modifie quelque chose. Donc on est obligé de mettre un autre additif pour compenser ce quelque chose qu'on a modifié. Et il nous avait fait une démonstration comme ça, on était obligé de mettre 5 additifs pour compenser le premier. Ce qui est extraordinaire. Et du coup, ensuite, c'est une course à l'additif. Et ce qu'on ne sait toujours pas aujourd'hui, et c'est bien ce qui inquiète les professionnels, c'est cet effet cocktail dont on parle, qui est effectivement le rôle de ces additifs mis tous ensemble. On connaît le rôle de tel et tel additif, mais tous ensemble, on ne connaît pas leurs conséquences sur la santé.
Ouais.
Et c'est très compliqué à étudier, parce qu'on imagine bien tous les biais qu'il peut y avoir. Ouais. Ça, pour l'instant, on ne le connaît pas, et c'est ça qui inquiète. Donc, le moins d'additifs possible.
Encore le problème, c'est qu'on était conditionné.
Bien sûr.
On était conditionné parce qu'il faut que le légume il ait une telle couleur,
bien
parce
sûr.
Qu'il faut un tel goût.
Exactement.
Et parfois, vous servez à des enfants des nuggets maison, ils les trouvent moins bons que les nuggets industriels.
Mais si vous leur donnez du jambon gris, jambon rose, qui est sa couleur voilà. normale, il va vous dire je préfère le rose. Hein.
Il faut casser nos habitudes et nos idées reçues. Halte au plat industriel aux éditions de La Martinière.
Mais ça, il faut apprendre ça à l'école.
Absolument. Alors là, moi je suis convaincu qu'il... Mais vous savez que dans les pays nordiques, par exemple, en Scandinavie, la cuisine fait partie
Absolument.
Des matières essentielles au même titre que les mathématiques
Absolument.
Et le français.
Ah oui, moi je trouve ça totalement incroyable qu'on n'ait pas des cours de cuisine, en fait.
Des cours d'alimentation,
voilà,
cuisine, c'est indispensable.
Vous avez fait de l'EMT, l'éducation manuelle et technique à l'école?
Moi, j'en avais quelques-uns quand même, elle aimait beaucoup ma prof.
Il y avait un peu de cuisine.
Oui, moi j'avais une cuisine, mais les recettes étaient abominables.
Oui,
une pêche au sirop remplie avec une boîte de thon et de la mayo, c'était la première recette qu'on nous a apprise.
Dis donc,
j'ai fait de la couture et je ne vous dis pas le résultat.
Allez, c'est l'heure de passer sur le grill des bons vivants. Marina Carrère d'Encausse, quel est le goût de votre enfance?
Il y en a deux, vraiment c'est la... Tarte aux pommes et cache. C'est vraiment les deux.
Sarrasin grillé.
Voilà.
Ouais. Pré-cuit grillé.
Mais qui remplace chez les Russes les pâtes, la pomme de terre. C'est vraiment la base de l'accompagnement ou du plat principal selon les moyens, avec un peu de chou. Et c'est vraiment.
C'est rassasiant, c'est nourrissant.
Voilà. Et c'est pas cher.
Ouais. Et il n'y a pas de gluten en plus.
Il n'y a pas de gluten et c'est excellent.
Le premier plat que vous avez cuisiné, Marina?
Cuisiné ou raté? Parce que tous ceux que j'ai réchauffés et que j'ai cramés, je ne peux même pas vous dire. Le premier plat que j'ai dû réussir, ça devait être du poisson cru.
Votre plus beau repas?
Mon plus beau souvenir de repas, en tout cas, c'était en Birmanie, chez l'habitant, un habitant qui nous avait invité. J'étais avec des amis et avec un de mes enfants, et c'est le repas le plus extraordinaire que j'ai fait, à la fois par la chaleur de ces gens qui étaient tellement gentils, mais c'était d'un bon inimaginable. En plus, les plats se sont succédés chez des gens extrêmement simples.
Vous avez
vraiment
mangé quoi?
Oh ben, j'avais mangé. On a mangé beaucoup de légumes, on a mangé beaucoup de tamarin. Alors en plus, on était censé, pour la tourista surtout, de ne rien manger de salade. Ouais. Mais alors, les salades au tamarin, on les a toutes finies. On a mangé des céréales, on a mangé un peu de poisson. Mais bon, c'est des gens vraiment avec peu de moyens, mais qui ont fait une cuisine d'un raffiné. J'ai rarement mangé comme ça. Et on était tous subjugués, on n'arrivait pas à partir de cette table.
Votre pire repas?
Mon pire repas, mais c'est assez général, c'est que j'aime pas beaucoup manger sur le sable. Et un jour, on avait fait un pique-nique comme ça sur le sable. Il y avait du vent. Et les sandwichs au sable,
ah oui.
Ça fait partie de mes grands cauchemars.
Le taboulé au sable, c'est pas bon non plus.
Non mais c'est immonde. Moi j'aime bien, quand on mange, avoir une table, des couverts, et une jolie table si possible. Mais alors le sandwich au sable, c'est pas possible.
Votre bande originale pour cuisiner, quand vous cuisinez?
C'est beaucoup de jazz, j'aime bien. J'esquisse un peu quelques pas au passage.
On écoutait Nougaro tout à l'heure, on était jazzy.
C'est hein exactement ça.
Quel plan mèneriez-vous sur une île déserte?
Est-ce que c'est un aliment ou un plat?
Un plat ou qu'est-ce que vous voulez, n'importe.
Parce que c'est un aliment, c'est du riz.
Ouais, oui.
Parce que le riz, on peut en manger tous les jours et puis on peut pêcher des poissons pour manger avec. Et ça, je pense que je m'en lasserai jamais. Et si c'est un plat, ben, je l'accompagne, ce riz. Je prends un peu de sauce soja, un peu de sauce asiatique. Et puis, je l'accompagne avec différentes choses. Si je peux prendre de l'avocat.
Oui, un riz sauté comme voilà, ça aussi. Voilà, ça, c'est très bon avec de la sauce soja.
Un petit peu d'oignon et un petit peu de poisson. Voilà, tout va bien.
J'ai fait ça cette semaine, figurez-vous. Qui sont les invités de votre dîner idéal?
C'est tout ce que j'aime. C'est l'anti-dîner professionnel. C'est
les amis. Sympa pour vos collègues.
non, mais je déteste manger utile. Donc, c'est les amis des amis, ma famille, mes enfants, les amis de mes enfants. Enfin, voilà, tous ceux qui viennent participer. Et plus on est, et plus je suis contente. J'adore les tablés. En été, on est rarement moins de 15-20 à table.
Ah, joli.
J'adore.
Et le mot de la fin, F-A-I-M?
À table.
Eh bien, vous y êtes. Et on était ravis de vous y recevoir.
Merci beaucoup. C'était très agréable.
C'était
merci
très
à vous,
sympa de vous recevoir. Merci, Marina Carrère-Dancos. On vous retrouve lundi, évidemment, dans le magazine de la santé. Mardi soir, ce documentaire, on en a beaucoup parlé. Hein. Céréales, 2 points, qui nous roule dans la farine à 20h50. Et puis, votre roman, évidemment, Les enfants du secret aux éditions Héloïse d'Ormesson.
Merci beaucoup.
Merci à mon équipe de m'avoir aidé à préparer cette émission. Lucie Lescourou à la rédaction en chef. Julien Amat, Alice Foss à la rédaction. Jean-Luc Arblade à la réalisation, Agnès Vaudin à la programmation. Merci Charlotte Langrand.
Merci Laurent.
À demain dans le JDD.
À demain. Hein?
Salut Olivier Pouls.
Il reste de la blanquette.
Je vais finir la mienne. C'est le 1er mai, mais bon voilà, il y a peut-être 2-3 boutiques d'ouvertes ou 2-3 marchés. Donc faites le marché, la cuisine. Rendez-vous samedi prochain avec un jeune chef qu'on aime beaucoup, souriant et bon vivant. C'est Maurice Sacco qui sera avec nous.
Ah oui.
Et dans un instant, c'est Europe Midi avec Jean-François Pérès. Bon week-end sur Europe 1.